Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Seconde partie.
Je suis toujours en compagnie d'Immanuel Wallerstein, chercheur à l'université de Yale aux États-Unis, économiste, historien, sociologue, l'une des figures tutélaires du mouvement altermondialiste et qui publie aux éditions Démopolis un essai intitulé « L'universalisme européen de la colonisation au droit d'ingérence ». Patrick Hutchinson, qui a traduit cet essai, affirme ceci sur le site de la République des Lettres. L'universalisme européen est le livre d'un très jeune homme de 77 ans, un auteur qui a su rester, ou du moins redevenir, en toute vraisemblance plus jeune que la plupart de nos jeunes d'aujourd'hui, puisqu'il a pu, comme très peu d'entre nous, en cette époque entre toutes de désinformation, de poudre aux yeux, de faux-semblants et de trivialisation, rester sereinement en éveil sur le fil tranchant d'un radical questionnement théorique, politique et intellectuel. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il s'agit là d'un homme, d'un auteur toujours plus jeune d'esprit, puisqu'au fil de ses écrits, il a bien publié près d'une trentaine de livres marquants entre 1961 et nos jours, il s'approche toujours davantage de la mise à nu de ce qu'il y a de plus nécessaire, mais aussi de plus inconfortablement lucide pour tout un chacun, tout citoyen, qui voudrait au temps présent non seulement survivre, mais si possible espérer et continuer de penser activement de façon politiquement créatrice. Je vous rappelle le titre de l'essai que signe Immanuel Wallerstein aux éditions Démopolis, l'universalisme européen de la colonisation au droit d'ingérence. Immanuel Wallerstein, parlons maintenant plus précisément de ce concept d'universalisme que vous interrogez. Et je voudrais savoir tout d'abord ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement aux Nations Unies, plus précisément dans le cadre du Conseil des droits de l'homme. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, quelques mots d'explication. À Durban, en Afrique du Sud, s'est tenue en 2001, à l'initiative des Nations Unies, la Conférence mondiale contre le racisme. Et c'est au nom des droits des peuples que furent scandés des « morts à l'Amérique » et « morts à Israël ». Et je n'oublie pas que c'est au nom du relativisme culturel qu'on fit silence sur les discriminations et violences commises contre les femmes. À la suite de ces graves dysfonctionnements, l'ONU a inauguré en juin 2006 un tout nouveau Conseil des droits de l'homme. Or, c'est à la consécration même des dérives enregistrées à Durban que nous assistons aujourd'hui, alors que Durban 2 doit se tenir en 2009. De quoi s'agit-il exactement? Une triple alliance est en train de noyauter ce nouveau Conseil des droits de l'homme. Elle est composée de la Conférence des organisations islamiques, représentée jusqu'à ce jour par le Pakistan, le mouvement des non-alignés, où Cuba, le Venezuela et l'Iran ont un rôle central, et la Chine. Et il faudrait évoquer aussi la Russie, dont le rôle semble pour le moins cynique. Rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines du racisme, Doudoudienne, qui déclare d'ores et déjà qu'énoncer, je cite, une critique contre le port de la burqa constitue une agression raciste, que la laïcité est ancrée dans une culture esclavagiste et colonialiste, et que la loi française contre le port des signes religieux à l'école participe, je cite toujours, de l'islamophobie occidentale. Et ça ne s'arrête pas là, puisque toute critique de la religion est dénoncée, je cite encore, comme une attitude raciste. J'ajoute, parce que je ne veux pas être trop long pour tous nos auditeurs, mais ils peuvent retrouver ce que je dis sur Internet bien sûr, quand cette septembre 2007, le haut commissaire aux droits de l'homme, Louise Arbour, participait à une conférence à Téhéran consacrée aux droits de l'homme et à la diversité culturelle. Portant le voile comme la loi de la République islamique l'exige, la haut commissaire a été le témoin de l'énoncé des principes à venir ainsi résumés, offense aux valeurs religieuses considérées comme racistes. Bien pire, dès le lendemain de sa visite, 21 Iraniens, dont plusieurs mineurs, furent pendus au public. Je note, Emmanuel Hallerstein, que le Canada, dans ces conditions, vient d'annoncer son refus de participer à la conférence de Durban 2. Et pour ma part, j'ai le sentiment qu'il faudrait approuver. Mais vous, est-ce que vous approuvez ? Comment appréciez-vous ce que je juge personnellement, à vous de me répondre, comme une gravissime confusion des esprits ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux Nations Unies ?
Bon, d'abord, la triple alliance dont vous parlez, ça représente deux tiers du monde. Alors, donc, il faut se dire comment est-ce que le tiers du monde dont vous et moi nous faisons partie, la partie occidentale plus ou moins un peu élargie, pourrait parler même avec ces deux tiers du monde qui refusent nettement nos préférences, nos conceptions du monde. Moi, je ne renonce pas à mon éducation ni à mes valeurs, mais évidemment, c'est pas tellement facile et c'est pas tellement clair que le port de la voile, le port de ceci ou cela est une question fondamentale ou non fondamentale, mais en tout cas, il est quelque chose qu'il faut quand même discuter. Moi, dans le dernier chapitre du livre, j'ai utilisé le slogan qui me paraît très très juste, Léopold Sédar Senghor. Il a appelé le monde au rendez-vous du donner et du recevoir. Et ce qui est frappant dans le monde actuel, tout le monde s'est donné. On donne nos jugements, on donne nos valeurs, on donne ce que nous semble bon. Mais recevoir, ça c'est beaucoup plus difficile.
Mais tout de même, Emmanuel Wallerstein, est-ce qu'on n'est pas en train, quel que soit l'autre auquel on s'adresse, est-ce qu'on n'est pas en train de quitter une perversion pour une autre perversion ?
Oui, il se peut. Il se peut, mais évidemment, je n'accepte pas beaucoup de choses qui existent. Vous avez parlé des pendaisons iraniens. Moi, je suis contre la condamnation à mort, en général. Et il n'y a que quelques pays du monde qui le font. Il y a l'Iran, il y a la Chine, il y a les États-Unis. Et je lutte contre cela aux États-Unis, et je suis prêt à dire que c'est pas justifié nulle part, mais quand même, qui est moi, un Américain, à condamner les pendaisons quand on fait exactement la même chose? La Cour suprême des États-Unis, il y a deux jours, a décidé que le traité que les États-Unis ont signé, qui exige qu'on donne droit à son consul, à tout étranger en situation judiciaire difficile, ne vaut rien. Il y avait un Mexicain qui a été condamné à mort au Texas. Il n'a jamais obtenu ce droit à avoir son consul. Et il a porté plainte, ou ses avocats ont porté plainte. Et le Cour suprême m'a dit, non, mais quand même, on a signé ça. Mais ça ne peut pas être plus important que nos lois locaux qui dirigent ça. Ah bon, écoutez, il faut qu'on commence à voir que dans ce monde, il y a de multiples universalismes. Oui. Tout le monde parle au nom des universalismes, Il n'y a personne qui dit, moi, je suis contre l'universalisme. Mais les universalismes sont différents. Et il faut commencer à donner et à recevoir. Et peut-être un jour, après une longue effort, on peut arriver à une compréhension. On a pu le faire en Europe, entre catholiques et protestants, ça a pris un peu de temps. Ici en France, ça a pris un peu de temps. Maintenant, il n'y a plus de problème. Mais il y avait le problème dans le temps.
Vous êtes un homme très instruit, et c'est à cet homme très instruit que je pose la question. Est-ce qu'il existe un système historique ? Vous êtes historien, vous êtes sociologue. Est-ce qu'il existe un système historique qui n'a pas prétendu être fondé sur des valeurs universelles ?
Non, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas aujourd'hui, et peut-être il n'y en aurait jamais. Je ne suis pas contre l'universalisme. Je dis, que dans un monde beaucoup meilleur que le monde actuel, il y aura un universalisme plus universel qui sera construit par la coexistence de multiples universalismes.
Alors, vous dissertez longtemps, évidemment, sur cet universalisme européen ou finalement occidental. Vous rappelez notamment, vous évoquez beaucoup, qu'une partie des Israéliens justifie leur présence en Palestine au motif que cette terre leur aurait été promise et finalement donnée par Yahvé. Alors, si je rappelle ce point, c'est que vous expliquez que c'est précisément un des fondements de la pensée universaliste. Je vous cite, « L'idée qu'il existe un ensemble de valeurs universelles a été fondée sur l'une ou l'autre de ces deux prémices. Soit elles nous ont été révélées, soit elles sont naturelles et ont été découvertes grâce à la vision intuitive de quelques gens exceptionnels. »
Oui. Bon, ça veut dire la loi naturelle ou la loi de révélation. Bon, c'est clair, ce sont les bases normaux des universalismes. Et même ceux qui prônent la laïcité en France utilisent en effet le droit naturel comme base de leur justification. Moi, je ne dis pas que moi je suis pour la laïcité, mais laïcité, c'est une question d'interprétation d'abord. Tout n'est pas automatique.
Hein. Au fond, la question que vous posez, ou le problème, ou le concept que vous interrogez, c'est la relation entre l'universel et le particulier.
Non. Je dis effectivement que tout universalisme est particulier et tout particularisme est universalisante. Hein. Et c'est justement, c'est pas là. Il y a une phrase quelque part dans le livre où elle dit il faut universaliser les particularismes et particulariser les universalismes. Parce qu'il faut mettre un œil un peu juste et un peu historisante sur ces concepts et ces arguments pour voir comment ils ont évolué, comment ils évoluent toujours pour accepter des choses. Bon, prenez par exemple dans notre monde occidental, il y a même 15 ans, l'idée de mariage homosexuel était quelque chose impensable, et maintenant ça commence à être accepté par tout le monde, mais pas beaucoup de gens. Alors il y a une évolution de nos valeurs universelles.
Quand un homme comme Bernard Kouchner, aujourd'hui ministre, mais peu importe, a proposé en son temps le droit d'ingérence, vous dites ceci, ce que Kouchner nous a proposé est l'équivalent pour le 21e siècle de l'évangélisation. Est-ce que tout de même la formule n'est pas un peu exagérée?
Non, pas du tout, non. Parce que il veut évangéliser la démocratie ou les droits de l'homme, au lieu d'évangéliser la chrétienté. La structure de l'argument est la même. Et Kouchner lui-même, quand même, n'est pas complètement consistante. Je cite dans le livre une conférence qu'il a donnée où il a mis en doute lui-même la valeur de ses propres idées en disant, évidemment, il y a un conflit entre ce que je propose et l'idée des droits égaux de tous les pays, de non-ingérence, etc., inscrit dans la charte de l'ONU. Et il dit finalement, bon, c'est bon si ces pays sont démocratiques, mais s'ils ne sont pas démocratiques, mais qui décide si un pays est démocratique ou non, hein? Et qui en est le juge? C'est un des questions importantes que Las Casas a souligné. Le pouvoir d'installer le juge, c'est le pouvoir de dominer. Hein. Le juge n'est pas une instance donnée par Dieu, il est créé par quelqu'un, selon quel quelques idées sur le plan mondial, nous n'avons pas de juges autres que ces tribunaux spéciaux créés pour des jugements particuliers.
Emmanuel Wallerstein, allez-vous jusqu'à dire que, par exemple, le tribunal de Nuremberg, le tribunal pénal international, le TPI, ou le tribunal d'Arusha, qui certes ne sont pas des modèles absolus, mais sont des modèles, sont plutôt des contre-modèles.
En général, bien que au moment de Nuremberg, quand j'étais assez jeune, je l'ai approuvé, en rétrospective, j'en ai beaucoup de doutes. En tout cas, les autres tribunaux, non, ils ne sont pas créés universellement. Deuxièmement, ils sont limités dans leurs objets, hein, et ils ne permettent pas, ça c'est l'argument de Milosevic que je trouve très fort, pourquoi me juger mais ne pas juger en même temps d'autres.
Et vous n'aimez pas l'argument de dire oui, mais on fait ça parce qu'on ne veut pas perdre du temps. Ça,
oui.
C'est un argument que vous n'aimez pas.
Oui,
Las Casas, d'ailleurs, le condamnait, je crois.
Oui. Et ça, c'est un argument et il a quelques valeurs. Il a quelques valeurs, mais il faut balancer cela par le fait que si on va trop vite, on fait pas mal d'erreurs. C'était, par exemple, l'argument essentiel des Américains en ce qui concerne l'Irak. On peut pas perdre du temps pour savoir s'il avait vraiment ses bombes nucléaires. Si on a perdu un peu de temps, on aurait trouvé qu'il n'en avait pas.
Emmanuel Wallerstein, vous accusez notre universalisme, j'entends la façon dont les Européens ont conçu l'universalisme de tous les maux. Mais notre universalisme a-t-il été vraiment universel ?
Non, mais il n'y a pas d'universalisme vraiment universel, c'est tout l'argument de mon livre. Jusqu'ici, tous les universalismes, tous, hein, ont été particulières, ont été limitées. Alors, il faut essayer d'aller vers un universalisme plus universel, qui est un universalisme construit de multiples universalismes pluriels.
Oui, c'est un réseau que vous sollicitez, auquel vous rêvez, un réseau d'universalisme universel.
C'est ça.
Eh bien, Emmanuel Wallerstein, merci. Ceux qui veulent réfléchir aux trois socles majeurs du nouveau consensus occidental, les droits de l'homme, le droit d'ingérence et le retour implicite de l'orientalisme sous forme de westernisation, dites-vous néo-impérial, cela vaut s'empresser de lire votre essai. Tout le monde, bien sûr, ne sera pas d'accord, loin s'en faut, avec vous, mais ainsi en va-t-il de la vie des idées. Et c'est bien, j'en rappelle le titre, l'universalisme européen de la colonisation au droit d'ingérence. Il a été traduit par Patrick Hutchinson et est édité chez Demopolis. Alors si vous souhaitez des renseignements complémentaires ou tout simplement nous écrire, notez l'adresse de l'émission idées@rfi.fr. Ce numéro d'idées a été mis en onde par Thomas Ferrière et réalisé par Patricia Lecomte. Bonne lecture, très bonne semaine à tous.